aie en tête que c'est probablement un des leviers qui a le plus d'impact. Mmh. À la fin de la journée, quand tu y penses, le prix que tu mets, c'est la devise ou un peu l'unité de mesure que tu déposes sur la valeur que tu crées. Puis, toutes les équipes core de ton SaaS devraient travailler à optimiser ça puis à le faire lever vers la hausse. On hit le road et samedi soir, ne clenchant pas les souvenirs. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir.
What's up, folks? C'est François Antienado. Bienvenue sur SaaS Passe, où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous et laissez-nous un review sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur saaspass.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS, il y a déjà au-dessus de 260 compagnies. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur saaspass.com/emploi avec un S, notre job board. Le prochain event SaaSpass sera lié à Québec chez Spectrum et Apollo 13 jeudi le 29 février. Guillaume Lambert, fondateur d'Orisha, et moi allons jaser de servir des utilisateurs peu techno qui travaillent sur le terrain, mais aussi de construire une culture d'entreprise saine et mature. 40 billets seulement, cette fois-ci, il en reste peut-être 2-3 max au moment où cette intro-là va sortir. Donc, ils sont dispo sur Eventbrite, la bannière de notre site, puis en show notes. La première retraite privée pour fondateurs SaaSpass s'en vient tranquillement en avril. On a quelques candidatures déjà. Si vous voulez soumettre la vôtre, allez sur saaspass.com/retraite avec un S ou écrivez-nous sur LinkedIn ou à bonjourhi@saaspass.com. On vous enverra les détails. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Jean-Gabriel Crevier, cofondateur et directeur général chez Le Chiffre, une firme de services comptables numériques pour start-up et PME. On discute du parcours de Jean-Gab, qui est passé par Workleap, par Le Chiffre, mais surtout de Pricing SaaS. Donc, on couvre comment Jean-Gab price ses services à lui, le concept du value-based pricing, l'art du pricing des SaaS, c'est-à-dire que c'est un exercice ongoing qui n'est jamais terminé, pourquoi tu devrais charger plus cher, pourquoi Jean-Gab déteste les rabais, pourquoi tu devrais pas gagner la majorité de tes pitches. Fait qu'on finit avec une ouverture un peu sur le futur des SaaS, avec des facteurs comme la fragmentation versus la consolidation dans notre industrie, l'AI, puis le contexte macroéconomique. Ah, puis Jean-Gab drop une couple de dad jokes, puis une couple de pics envers Québec, auxquels je peux pas répondre parce que je suis entouré de Montréalais à Montréal. Alright, on passe au promo d'abord, ensuite au show. Pour février, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Courriel, chat, SMS, DMs, tout y est. Missive sont à la recherche d'un designer produit, quelqu'un avec de l'XP, l'expérience, des bases en front-end, quelqu'un qui est à l'aise de travailler proche avec des devs. On utilisait Missive chez Snipcart, on l'utilise encore aujourd'hui chez Grip et ça se passe. C'est de la bombe comme produit puis poste à combler, sauter là-dessus. Missive sont vraiment en train d'évoluer comme compagnie puis le cofondateur Étienne Lemay m'en parle justement de cette vision-là dans notre petite entrevue vidéo. Consultez l'offre et l'entrevue via le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspass.com/lajobdumois-. Pour commanditer une job du mois, écrivez à bonjourhi@saaspass.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Alright, on passe au show. Let's go! Good, mostly. Settle down, ceux qui restent. J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Sinon, il y a des chaises errantes que vous pouvez snapper pour ça. Fait que first, là, les lumières viennent de fermer, donc je n'ai plus ce cue visuel-là, mais j'ai vu la crowd qui est ici. Puis à chaque fois, c'est comme la sixième fois qu'on fait l'event, sixième fois qu'on sell out l'étiquette, puis que je me fais DM, puis qu'on en ouvre plus. Je suis fucking stoked. Merci, guys, pour merci d'être venus. C'est vraiment, vraiment nice. Fait que, comme à mon habitude, je vais parler un petit peu de nos partners puis les nouvelles là, côté ça se passe. Après ça, on enchaîne tout de suite avec Jean-Gabriel dans la viande. Donc, ce mois-ci, pour janvier 2024, notre job du mois, c'est chez Psylio, un SaaS vraiment cool. Gestion des clients, ta business pour les professionnels de la santé mentale. Ils sont à la recherche d'un programmeur full stack. saaspass.com/lajobdumois. Vous allez voir toute l'info là-dessus si ça vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un. Notre partenaire mensuel pour le Spotlight, c'est-à-dire un fournisseur de services
qu'il y a de quoi de cool à offrir à certains SaaS, c'est le studio Apollo 13. Un studio no-code pour builder des MVP ou des side projects. Fait que check them out, saspass.com/partenaire avec un S. Puis un énorme merci à la nouveauté, basically, qu'on a avec SaaSpass, qui est nos partenaires certifiés. Fait qu'on a travaillé très dur pour identifier des joueurs clés qui allaient pouvoir aider les SaaS dans les verticales spécifiques. Fait que pour l'instant, on a closé AI, fait accompagnement AI, on a baseline. Vous pouvez les voir sur saspass.com/partenaire avec un S. On a évidemment le chiffre avec Jean-Gab, avec Tom, avec toute l'équipe pour notre verticale finance et fiscalité. Puis on a aussi, vous allez voir une partie des buzz puis de la team de Leviat Legal pour ce qui est du côté légal. Et puis, c'est du beau monde, c'est des belles business. Ils ont supporté, ça se passe pour l'année 2024 aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est comme, dans le fond, l'argent que j'ai fait avec Snipcard va moins descendre grâce à eux. Fait que tout le monde est vraiment, vraiment reconnaissant de votre implication. Finalement, ceux qui n'ont pas check-out le job board de SaaSpass, on travaille tranquillement sur ce produit-là. C'est encore gratuit en bêta. On risque de monétiser cette année. On a de l'utilisation organique qui commence à y aller. Fait que saspass.com/emploi avec un S, vous pouvez checker ça. Puis sinon, l'autre grosse nouvelle, là, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas suivi sur LinkedIn ou whatever, on crée des retraites pour fondateurs privés. Des retraites privées pour fondateurs cette année. La première va être en avril. On a annoncé qu'on allait faire ça au Manoir des Forges. Il y a un tout petit form là, à remplir si vous voulez appliquer. Puis ça risque d'être quelque chose de cool, une bulle vraiment privée et intime où tu peux parler des vrais challenges que tu as en tant que founder SaaS avec une cohorte qui fit un peu tes rendus dans ta croissance. Fait qu'on travaille fort là-dessus aussi. Ouh, c'est fini pour les annonces, mon gars.
Monsieur Chalet?
Monsieur Chalet, shout-out, t'as bien raison. Ils vont te dire, ils vont te DM, merci. Ouais, fait qu'on est en partnership avec Monsieur Chalet pour les retraites. Will, si tu pognes ça, je m'excuse. Ouais, fucking cool le service qu'on a eu avec eux aussi. Merci, Jean-Gab. All right, good. Je suis content, deuxième fois à Montréal. La première fois, c'était chez Workly. Même building, différents bureaux. Fait que
t'es juste déçu?
Non, d'où, t'as-tu fait la quantité de plantes?
Pour les gens qui ne savent pas, mon partner s'appelle Lafleur.
Et voilà.
On n'avait pas le choix.
Et voilà. Et voilà. Ça commence déjà avec une date, Joe.
Let's go! C'est mon trademark.
Non, d'autres, je suis vraiment stoked d'être avec toi. Là, moi, j'ai appris à te connaître à travers les mois que j'ai lancé ça se passe et tout. Mais j'aime toujours ça commencer le pod avec un mini recap de comment on se connaît. Fait que je te pose la question, tu te rappelles-tu comment on s'est connu?
Ça a commencé à Collision. Pas parce que tu étais là, mais parce que j'ai croisé un de mes clients chouchous, Mathias Péloquin. Puis,
qui est là ce soir. Hein?
Qui est là ce soir, ouais. Rivière-du-Loup, Montréal. C'est quand même une bonne trotte. fait que c'est ça, fait que parle-parle, jase, on prend des nouvelles chacun de notre bord. Je lui explique la stratégie du chiffre pour 2024 and beyond. Puis à un moment donné, il m'arrête puis il dit, il faut que tu rencontres Frank.
Mm.
Je suis comme, nice. Frank, ça se passe? Oh yes, ça se passe. fait que de fil en aiguille, je pense qu'il est rentré dans tes DMs. Il ouais. t'a dit, je pense qu'il faut que tu parles à Jean-Gab. Ouais. Vous êtes super alignés. Ça a commencé avec une petite rencontre un peu informelle avec Tom. Ça en a mené quand même un podcast assez original.
Exact. Fait que vous pouvez checker, il y a un pod avec le partner à Jean-Gab qui est Thomas-Louis Lafleur, qui est super nice. Mais moi, j'étais comme, oh, nice, je vais connecter avec Jean-Gab. Peut-être Jean-Gab, non, je t'envoie ce dude-là. comme in extremis à Québec, mais dude, on a vraiment eu du fun. Puis il a droppé beaucoup de knowledge, puis ça a comme été le début de la relation.
Exact. Puis je te dirais ce qui a cloué un peu le partnership, puis comment on est rendu un peu interrelié, c'est l'événement chez Workly. J'ai adoré ce que j'ai vu, j'ai adoré ce que j'ai entendu, puis pour moi, c'était sûr qu'on allait travailler ensemble. Puis tu sais, on se l'est dit, quand on a vu ta mission, quand on a vu toute l'énergie que tu mettais là-dedans, Tom et moi, on s'est dit, hey, on aurait peut-être dû faire ça, mais on est content que ça soit Frank qui s'en occupe. Puis si on peut être juste un partner ou rider shotgun avec ce qu'il fait, ben faisons-le. Puis je pense que comme nos discussions, ça a pris quelques jours, puis on était on board pour 2024.
Ouais, ça a été un deal facile à closer, même si vous m'avez fait attendre parce que vous étiez comme, là, on va pas juste te dire oui tout de suite.
Ben tu nous avais donné un prix initial, puis moi, je t'avais recommandé de charger plus cher pour ça. Puis là, tu étais revenu avec un prix plus cher, puis j'ai dit, bon, je viens de me faire surprendre, mais en même temps, il y a...
Mais ça met la table pour le core du sujet ce soir, yes. Qui est le pricing des SaaS. On va faire une ouverture sur le futur des SaaS aussi. Puis j'aimerais juste mentionner que tu es rendu plus que partenaire, je suis rendu client. J'ai deux nouvelles compagnies. Il y en a une qui n'est pas encore incorporée. Ça se passe pas encore incorporée. Mais Grip, les gars de Leviat m'ont annoncé tantôt. Yo, ton incorporation est faite. Let's go. Fait qu'on est client aussi. Puis je suis vraiment content de commencer ça. Man. All right. Fais-nous un mini recap. Tu sais, un peu une série de highlights de qu'est-ce qui t'a amené à fonder le Shift pour que le monde ait une idée de ton parcours professionnel.
Sure. Ça commence à ma naissance. mon père est comptable. Fait que shout out à Jaco. Je voulais en parler de lui, puis je voulais qu'il fasse partie de ça parce que je vais y envoyer le podcast à écouter. Je sais pas s'il va comprendre 100% de tout ce qu'on va dire, mais au moins il va savoir qu'il y avait une portion importante réservée à tout ça. Fait que moi, à 3 ans, je voulais pas être gardien de but dans NHL, je voulais pas être astronaute ni pompier, je voulais être comptable.
T'avais-tu pas des amis?
J'avais beaucoup d'amis. C'était mon downside, je te dirais. C'était mon côté caché. Fait que mon père, il me disait, il faisait des budgets, puis j'étais comme, mais c'est la meilleure chose au monde, tu sais. Fait que...
C'est-tu que c'est hot?
mais il y a un lien. Il y a un lien. Mon père m'a introduit chez G-Soft, maintenant Workleap, quand j'avais 20 ans.
Ça, je savais pas que l'intro, la genèse de ton bout chez G-Soft, c'était...
Yes, okay. Mon père faisait les états financiers de G-Soft à l'époque. Yes.
Let's go.
Ouais. Fait que ça m'a permis de rentrer dans une business absolument incroyable avec des fondateurs puis des employés absolument dynamiques puis remplis de vision. Fait que j'ai pu être pendant 10 ans de temps chef des finances, CFO là-bas. Fait que ça m'a permis de faire mes dents puis de voir une trolley d'affaires. En parallèle, j'ai fondé le Shift avec Tom. Puis à un moment donné, j'ai fait le switch d'employé à consultant à l'intérieur de G-Soft, puis ça nous a permis de nous rendre où ce qu'on est rendu en ce moment.
Super. Si le monde veut les détails justement de la genèse du Shift, tout ça, dans l'épisode avec Tom, mais aussi dans le profil, on a fait une entrevue partenaire qui est sur l'URL que j'ai dit déjà 3 fois. Là. Ouais. Allez sur saspasse.com, partenaire. Mais on en parle beaucoup aussi du Shift. Là.
Exact. Puis si je peux rajouter, j'ai commencé à travailler chez G-Soft. Je n'étais même pas rentré à l'université.
OK.
J'étais un décrocheur. Puis j'ai pas fini mon cégep. Puis j'aime ça chirper le monde de l'UQAM pour dire que j'ai fini mon cégep à l'UQAM. mais de fil en aiguille, je suis devenu CPA à travers tout ça. Puis là, le Shift va fêter ses 11 ans cet été.
Sick. Puis un one-liner, mettons, pour le monde qui vient ici et qui ne sont pas déjà familiers avec le chiffre, qu'est-ce que ça mange en hiver?
Je peux-tu prendre plus qu'un one-liner?
Ouais, dude, t'as contribué significativement à ça se passe. Prends les lignes que tu veux.
Excellent. À la fin de la journée, on veut être le bras droit de l'entrepreneur.
Yes.
Puis ça, de la manière qu'on le fait, c'est en prenant l'entièreté de la responsabilité de la fonction finance. Fait qu'initialement, on a commencé beaucoup à faire de la transformation numérique au niveau des outils comptables. On a pris beaucoup de tenues de livres dès le départ. Puis de fil en aiguille, on est venu rajouter un peu des cordes à notre arc. Okay. Fait que ce soit tout le côté de conformité, la fiscalité. Puis après ça, est venu des axes de conseil assez importants. Fait que tout le controllership que tu peux avoir dans ta business, la direction financière, les subventions, le financement. Fait qu'à la fin de la journée, un entrepreneur en tech ou en service professionnel qui a envie de se faire accompagner au niveau de ses finances peut, de l'incorporation jusqu'à son exit, faire affaire avec le Shift. Puis on est tout le temps un peu en avance, en amont des problèmes, des enjeux qu'il va y avoir, puis on a les solutions pour où ce qui est rendu dans son cycle de vie, si on veut.
Puis comment vous l'avez financé au départ? Avec G-Soft.
Oui, tu sais, des beaux clients comme ça, c'est sûr, certain que ça te met sa map, ça te donne aussi les coups des franges pour bien faire. Mais tu sais, ça a toujours été un projet long terme pour Tom et moi. Puis les plantes, c'est pas juste une joke avec le nom de famille de Tom, c'est aussi la notion d'écosystème. On a commencé avec quelque chose de tout petit, c'était des petites fougères, dans le but qu'un jour, il y a une forêt puis une fleur qui est florissante. C'est un peu de même qu'on a toujours pensé nos moves avec le Shift. Fait que initialement, c'était de soir puis de week-end. Fait qu'on avait chacun nos jobs, puis on avait un deuxième puis un troisième Shift. Fait que ce qui faisait qu'on ramassait des clients puis du billing, puis en même temps, on stachait un peu l'entreprise. Puis après ça, ça a toujours été de prendre un certain rabais sur nos salaires, puis de renoncer à une job plus payante ailleurs dans le but d'investir dans le Shift. Puis après ça, ça a été les clients, ça a été la superbe équipe qu'on a été capable de coller avec nous autres qui nous a permis de nous rendre où ce qu'on est. Puis tu sais, ça fait quand même 10 ans et demi, là. C'est long, puis ça compound à toutes les années, puis c'est tout ce que je veux.
D'ailleurs, ton équipe, votre équipe a été super helpful pour toute l'organisation. Fait que c'est un merci à Le Chiffre aussi de hoster, pas juste d'être partner.
Merci de t'inviter.
Of course. C'est ma spécialité, là. Ma blonde là ici. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de pricing. Fait que faisons une mini soft intro en te posant la question à toi. Comment tu détermines le prix que tu builds tes services puis la valeur que tu amènes dans Le Chiffre?
C'est un dada pour moi depuis que j'ai repris, je te dirais, les rênes du Chiffre puis que je suis là à temps plein comme CEO. Parce que traditionnellement, une firme comptable va plus charger à l'input, c'est-à-dire à l'heure, ou au output, ben, qu'est-ce qu'ils ont livré pour toi. Puis nous, on a voulu rapidement se distancer de ce concept-là. Okay. Et pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a un bon rattachement à faire avec les SaaS.
Ouais.
Fait que le concept qu'on essaie d'amener puis de mettre de l'avant, c'est le value pricing. Fait qu'on n'essaie pas de charger pour les heures qu'on met ou qu'est-ce qu'on fait. On essaie de charger pour l'impact qu'on va avoir, la valeur qu'on va créer chez vous. Puis techniquement, pour une SaaS, c'est exactement la même affaire. Fait que je dois dire que autant que je mets ça de l'avant, autant que je l'évangélise à l'intérieur du Chiffre puis aussi avec nos clients, c'est pas une science. C'est absolument un art à 100%. Puis c'est un art qu'il faut un peu se dédier puis qu'on n'arrivera jamais à la fin de tout ça. C'est extrêmement asymptotique. Puis la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de mettre les énergies nécessaires puis d'essayer de récolter les bénéfices autour de ça. Maintenant que c'est dit, comment on s'attaque à ça? Bien, à la fin de la journée, il y a plusieurs forces en présence autour du pricing. Quelqu'un qui vient te voir avec un problème, c'est soit que ça y fait mal ou soit qu'il y a des bénéfices qu'il ne va pas chercher. Fait que de creuser, de comprendre ton client, de connaître sa situation, puis déjà d'être très bien aligné, de savoir à quel point ça lui fait mal ou à quel point il manque quelque chose pour aller à la prochaine étape. Ça, pour moi, c'est des intrants qui sont absolument nécessaires pour déterminer le prix qu'on va charger. Après ça, c'est sûr et certain qu'il y a un coût de son bord de rien faire. T'sais? De le faire lui-même, de rien faire, d'aller voir quelqu'un d'autre. Puis tout ça vient donner une certaine idée de combien on devrait charger. Mais de l'autre bord, il y a aussi notre temps, notre énergie à l'intérieur du Chiffre, c'est défini, il y a une limite. Je peux pas en vendre pour 200 000 heures en un mois. Fait qu'il y a quand même une notion que nous, on se met un plancher pour se dire, à some point, je ne suis pas prêt de travailler en bas de ce montant-là.
Puis là, il y a beaucoup de force interne à la réalité de l'entreprise de ton client que tu as parlé, à ta réalité interne à toi aussi.
Ouais.
Est-ce que vous factorez beaucoup la compétition? Est-ce que c'est comme un des leviers qui va t'aider à déterminer ton pricing beaucoup? Parce qu'en SaaS, on va y venir, évidemment, ça peut être un pitfall un petit peu.
Ouais. La meilleure chose qu'une entreprise en général, puis encore plus en SaaS, peut faire, c'est qu'il n'y ait pas de compétition.
Okay.
C'est que tu sois tellement bien positionné que tu es en train d'être seul dans ce que tu essaies de régler pour un client spécial.
Ça ressemble beaucoup à un saying que je répète tout le temps, genre « be the only, not the best », que j'ai volé à quelque part, là, c'est pas moi qui est smart.
Mais tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est de se positionner dans un endroit où ce que le client va sentir que tu es la seule solution pour régler ce que tu as besoin de régler. Tu es la personne ou le produit qui comprend comment il se sent puis qui en a déjà fait par le passé.
Mais ça reste idéaliste.
Ça reste idéaliste, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais reste que je pense que c'est beaucoup plus là-dessus qu'on veut jouer plutôt que de compétitionner sur le prix. Parce que compétitionner sur le prix en service ou en SaaS, ça fait juste driver les marges de tout le monde vers le bas. Mm. C'est pas soutenable à long terme. Puis il va toujours avoir quelqu'un de moins cher que toi. Puis si tu t'en vas dans cette approche-là stratégiquement, c'est une recette pour un désastre, c'est une recette pour une business qui ne soit pas en mesure de grossir. Fait que c'est sûr et certain qu'on s'est pris en compte, mais on essaie toujours de le spinner d'une manière de dire « Non, ce que tu as de besoin, c'est 5 affaires différentes. On est pas mal les seuls au Québec qui offrent ces 5 affaires-là. Puis en plus, on travaille en tech principalement. Voici comment ça coûte. Puis je te garantis que d'essayer de cheap out dans d'autres options, ça va finir par te bite back puis te coûter 2, 3, 5 fois plus cher que l'économie que tu penses faire en ce moment.
C'est cool parce que tu viens de me donner une quantité d'ammunition phénoménale pour quand on va négocier mon pricing des clients pour le Chiffre.
Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que c'est mon avocate qui a révisé notre contrat puis elle a glissé une clause de renouvellement au même prix. Fait que.
Tout. Ma blonde est avocate, elle me dit tout le temps de réviser les contrats. Fait que là, on va hone in, on va zoomer un petit peu plus sur les SaaS. Y a-tu des do's and don'ts, des choses que tu vois en termes de faux pas ou de bonnes décisions quand un SaaS structure son pricing, puis on part de ça, puis on voit ça nous amène?
Ouais. Mais tu sais, c'est difficile de donner du conseil universel parce que tout dépendamment où ce que tu es rendu dans ton SaaS puis dans la relation avec tes clients, il y a des meilleurs conseils. Fait qu'au début, c'est normal que ça soit simple. Au début, c'est normal que tu sois off. La chose que je vois le plus souvent puis qui est un peu problématique puis pour moi vient me déranger énormément, c'est que souvent, c'est mis là au départ. Puis on dit « Hey, c'est cute, j'ai une belle petite page, j'ai 3 options, puis wow ». Puis ça arrête là.
C'est simple.
C'est simple, c'est beau, c'est déjà fait. Le monde achète, pourquoi qu'on change ça? Mm. Fait que mon premier problème, c'est qu'il n'y a pas une réflexion continue autour de ça. Puis si on peut revenir à ce qu'on parlait initialement, je fais des tests sans arrêt sur comment je bundle mes services, comment je vends mes services, puis quel prix je mets là-dessus.
Avec les bottines sur les babines pour toi à l'interne, tout, mettons.
Oui, puis les conseils que je donne au SaaS, c'est la même chose. Mm. Aie en tête que c'est probablement un des leviers qui a le plus d'impact. Mm. À la fin de la journée, quand tu y penses, le prix que tu mets, c'est la devise ou un peu l'unité de mesure que tu déposes sur la valeur que tu crées. Puis toutes les équipes core de ton SaaS devrait travailler à optimiser ça puis à le faire lever vers la hausse. Le produit devrait dire « Hey, j'ajoute des features ou je monte une expérience que les gens accordent beaucoup de valeur. » Même chose pour le marketing qui va le mettre de l'avant puis même chose pour les sales qui vont le closer.
Mais ça implique, je pense que c'est intimidant parce que pour naviguer dans cette or-là de pricing, ça implique de l'intelligence compétitive. Mais ça implique beaucoup d'intelligence de marché, de beaucoup parler à tes clients, de faire le mapping de justement, OK, s'ils sont inactifs et ils font rien, combien ça peut leur coûter puis quand? S'ils prennent tel genre de tool, combien ça va leur coûter, etc. S'ils font à l'interne, etc. C'est le truc clé que tu as dit, c'est que c'est un exercice ongoing, récurrent. C'est énergivore, right? Alors qu'il y a tellement d'autres trucs qui compétitionnent ton attention quand tu es founder SaaS puis que tu es en train de scaler, que tu es comme, ben là, celui-là, elle marche, mettons, là, tu sais, le set it and forget it du price. Mais moi, mettons, quand j'arrive avec un client, souvent, qui ont des objectifs de growth, je suis comme, ouais, mais ce levier-là, là, il est genre collé sur ton revenu. Là. C'est pas un nouveau canal d'acquisition full risqué que tu sais pas si ça va générer de la growth ou bien un ROI positif. Si tu tires un peu puis que ça marche un peu, boum, tout de suite, tu as des résultats. Fait que, t'as comme une responsabilité de gosser avec le pricing.
100%. Puis je te dirais que c'est comme ce que tu viens de décrire, c'est un gros paradoxe. Parce qu'on n'a pas le temps ou on est concentré ailleurs et ainsi de suite, mais il y a un coût de renonciation à ne pas toucher à ça. Puis tu sais, il y a quand même plein de choses à prendre en considération. Quand tu set up ton pricing, il faut que tu aies une unité de mesure ou une unité de valeur qui a du sens avec ce que tu offres. Quand on pense à AWS, ils chargent à la consommation. Mmh. Il y a quand même une corrélation quand même assez directe entre la valeur qu'ils amènent et le prix que tu payes. Quand tu deals avec même le per user, quand ton nombre de users...
Par siège, mettons.
Exactement. Ça a de l'allure, mais il faut que tu te poses la question, c'est quoi l'unité? Puis tu essaies le plus possible de rattacher ça à soit du usage ou de la consommation en général. Puis... Le but, c'est d'imbriquer à l'intérieur même de ton pricing, d'enchasser quelque chose qui va te créer une augmentation du prix que tu vas charger. Fait que, par exemple, à AWS ou Azure, qui disait hey, plus que tu dépenses, plus que je te charge, mais tu voudrais que ça fasse ça un peu normal par la bande, tu veux que ça fasse ça dans ton pricing. Puis tu sais, il y a quand même il y a quand même un défi aussi que les entrepreneurs ou même les vendeurs en général n'aiment pas ça se faire dire non. Puis, pour moi, c'est une question que je pose littéralement à n'importe qui. Combien de pourcents de tes pitchs ou de tes démos tu gagnes? Puis les gens me répondent tout le temps un pourcentage qui n'a pas de bon sens. 50%, 60%, 80%. Puis je dis, si tu me dis ça, ça veut dire que tu as un gros, gros problème au niveau de ton pricing. Ça veut dire que tu ne charges pas assez cher. Tu n'es pas en train d'assez filtrer le monde, tu n'es pas en train d'assez de capturer la valeur qui te revient à toi. Tu Puis, tu sais, là, on pourrait partir sur des grands débats philosophiques. Ça nourrit le côté narcissique des gens, généralement, qui sont des entrepreneurs ou des vendeurs, et ainsi de suite. Mais là, c'est un autre sujet qu'on va pouvoir parker. On n'a pas toute la soirée.
Est-ce que tu penses que... Bon, tu m'as comme donné un ratio de... Yo, si tu closes tous tes deals à 81%, ça veut dire que tu n'es pas allé assez tester la résistance et l'élasticité dans ton market. T'as-tu un genre de ratio que t'es comme, OK, là, on est dans un sweet spot sans décourager toute la team de vente ou les founders qui font encore de la vente ou, tu sais?
Tu sais, c'est tout dépendamment encore là du market puis qu'est-ce que tu essaies de faire puis aussi des énergies puis ton coût d'acquisition que tu mets dans ces trucs-là.
Mais toi, à l'interne, dehors, mettons.
Mettons, moi, je gagne over un pitch sur deux. J'ai pas été assez greedy, là.
Ah,
ouais. Mettons, un sur trois, je me dis, là, je suis allé au... Ça enlève les, mettons, les mauvais pitchs que je fais et ainsi de suite. Mais à la fin de la journée, plus de clients, c'est souvent plus de problèmes. Puis tu as déjà plein de problèmes à régler et ainsi de suite. C'est pas une mauvaise chose d'essayer de filtrer les bad fit customers avec un pricing.
C'est une barrière,
puis, exactement. Parce que tu sais, à la fin de la journée, il faut que tu fasses un. Tu montes un peu, j'aime pas le terme, là, mais des personas ou des use cases que tu vas venir essayer de tacler. T'en choisis pas trop parce que tu veux pas t'élaguer et tu veux pas dire « Hey, je suis la solution parfaite pour tout le monde. » Ça existe pas.
C'est tough à marketer aussi.
Exactement. Ouais. Fait que t'essaies de « narrow down » tout ça. Puis t'essaies de mettre un subset de features, de package, de prix qui va juste appeler à ce monde-là puis qui va un peu laisser de côté tout le reste des clients potentiels.
Fait qu'un de tes conseils que tu l'as dit au début, tu me l'avais dit à moi, tu le disais à des entrepreneurs, on and on,
ouais.
Raise prices, monter tes prix. Puis dans l'espèce de littérature populaire de la startup, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où c'est pas une bonne idée de raise prices ou comme 9 fois sur 10, quand tu vois un use case de business, t'es comme, ouais, là, ça vaudrait la peine de l'essayer ou clairement. Là.
Ce conseil universel-là, je le donne parce que généralement, les gens n'ont pas le courage de que leur bottine suive leur babine, si tu veux. Fait que c'est comme imbriqué un peu dans, je veux pas dire né pour un petit pain, tu sais, il y a le côté narcissique qu'on parlait tantôt, mais bref, c'est comme, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a ça de un, puis de deux, il y a la notion que le pricing, des fois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il n'a pas été touché. Et même plus, tu sais, tu as ajouté des features de plus. Ton support il est plus nice, ton brand s'est amélioré, tu as bougé upmarket, puis l'inflation, toutes ces affaires-là poussent à la hausse. Puis là, tu vas me dire, l'inflation, c'est quoi ça rapport? Mon produit a déjà été buildé. Mais quand tu penses à qu'est-ce qu'il faut que tu analyses derrière pour monter ton pricing, il faut que tu te dises, c'est quoi les revenus de plus que je vais générer chez mon client? C'est quoi les coûts que je vais y faire sauver? C'est quoi le temps que je vais y faire sauver? Toutes ces affaires-là suivent l'inflation. Parce que si tu me vends un SaaS qui va enlever un FTE ou plusieurs FTE dans une organisation, c'est lié à leur salaire. Fait que c'est normal que ton même use case pour le même set de features, tu puisses charger plus cher d'année après année juste parce que ce que tu viens créer dans l'entreprise a changé de prix.
Fait que toi, si j'essaie de résumer, là, l'évolution interne de ton produit qui augmente en valeur plus l'évolution externe d'un marché, ces deux forces-là, de façon générale, justifient des constant increase, mettons.
Exactement. Puis dans le meilleur des mondes, tu bundles, unbundles, t'ajoutes des add-ons. Bref, t'essaies aussi de...
Tu testes
autour de ça. Puis techniquement, t'essaies de te rapprocher le plus possible de la ligne théorique que du petit client, qu'est-ce qu'il est game de payer, puis le gros enterprise, si jamais tu te rends enterprise, qu'est-ce que lui est game de payer. Puis un autre truc que j'ai vu souvent, puis qui... À toutes les fois, ça me brise le cœur, c'est que le SaaS qui n'est pas game de pricer assez haut se fait juste tasser du revers de la main par des procurements parce qu'ils n'ont pas chargé assez cher. Ils ne se sont pas donné la crédibilité d'être comparés avec d'autres options. On en a parlé, mais il y a une anecdote d'un SaaS qui n'arrivait pas à vendre sa solution. Ils ont jacké les prix 5x puis se sont mis à vendre ça comme ça n'avait pas de bon sens.
Ouais.
Parce que la personne au procurement regardait leur solution, 10 000 $ pour ce qu'elle a besoin de faire. Il y a une équation qui ne jive pas d'un certain sens. Quand il était rendu à 50 000, il était comme, ah, ben j'ai une solution à 100 000 à remplacer. Toi, tu me l'offres à 50 000. C'est raisonnable. C'est possible. Ça rentre dans l'univers du possible. Je vais avec eux.
on rentre dans la dimension comme psychologique, la perception.
Mais c'est juste ça.
Fair.
Il y a c'est une game de poker. C'est littéralement... Okay. Puis là, on plug le chiffre ici. Là. c'est full circle. Là. Mais, tu sais, à la fin de la journée, tu es dans un environnement où l'information est inégale, incertaine, puis n'est pas nécessairement connue des deux côtés. Puis c'est une game de savoir qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, vers où tu t'en vas, puis moi, quel jeton je peux placer où pour qu'il y ait un deal à mon avantage.
Ça revient à la notion que tu dis que c'est un art.
C'est un art.
Ce poker.
Exactement.
Analogie-là. J'ai le goût de double-clic sur la notion d'inflation parce que toi puis moi, on s'envoyait des ressources pour prep le pod puis tout ça. Puis je me rappelle plus, je pourrais le mettre dans les show notes. Là. J'ai toujours aimé ça dire ça. Je pourrais le mettre dans le chemin, mais il y a comme une étude qui montrait l'inflation comme générale, tu sais, de notre société, whatever, puis l'inflation des prix de SaaS. La courbe était vraiment plus steep en SaaS. Puis on dirait que j'étais comme, peut-être que je suis trop noble pour me faire une tête par rapport à ça. C'est-tu qu'on est tout le temps en mode raise prices puis qu'on va être au-dessus de l'inflation? C'est-tu parce que le capital est plus tough à aller chercher? Fait qu'on est comme, let's capture more value. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de cette espèce d'anecdote statistique-là, mettons?
C'est une stat TVA.
All right.
Fait que c'est cherry pick entre deux trucs qui n'ont pas vraiment de lien ensemble puis qui évoluent pas selon la même métrique.
Fair.
Fait que les années, tu sais, l'âge d'or du SaaS où ce que l'argent était gratuit, tout le monde faisait de l'argent sur papier parce que leur fonds augmentait puis WeWork était sur le uptick, ben ce que ça faisait, c'est qu'il y avait un surplus d'argent pour tout le monde. Puis le mot d'ordre qui était donné à ces SaaS-là, c'est acquisition, 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 acquisition. Peu importe combien ça te coûte, peu importe si tu prices correctement, c'est capture du marché, puis on fera de l'argent « at some point ». Puis là, le « at some point », c'est ce qu'on vit depuis je te dirais, 2 ans, depuis 2021 ou en tout cas début 2022 quand il y a eu… l'hiver des multiples, là. Fait que tout a fondu, le coût de la dette a monté avec les taux d'intérêt qui ont monté, puis là, le mindset, c'est de dire, mais c'est plus l'acquisition à tout coût, au contraire, c'est la gestion raisonnable de mes finances, et pas juste ça, la gestion de cash flow, pour être en mesure de montrer que je suis une business viable, et pas juste ça, pas run out de cash, parce que mon modèle était complètement skewed avant ça. Je te dis ça pour te dire que c'est normal qu'il y ait un rattrapage en ce moment du côté SaaS parce qu'il y a eu un peu ce qu'on disait, comme on a parké les prix pendant longtemps parce que c'était pas important. Là, il y a du rattrapage. Fait que c'est ça qui crée les stats TVA que tu as mentionné.
Fait que j'étais halfway there. Fait que je me sens moins mal à propos du TVA thing. J'ai le goût qu'on zoome sur un artefact très spécifique du pricing qui est la page pricing.
Ouais.
Puis tantôt, quand on faisait de la prep et qu'on jammait là-dessus, tu me dis... Le monde comme care se soucie beaucoup trop de la simplicité de cette page pricing-là. Puis t'as comme fait un argument sur c'est correct que ça soit comme relativement complexe ou juste qu'il y ait de l'information substantielle, des breakdowns. Puis on dirait que ça, c'est aller contre une de mes intuitions qui est peut-être naïve ou pas de « Huh, on dirait que moi, j'essaie toujours de simplifier. Tu veux-tu parler plus de ça? »
Ouais. Il existe différents clients. Il existe différents use cases. Il existe différents packages. Puis pas juste ça, il existe différentes géographies. Que tu vends à quelqu'un au US, au Canada ou dans un pays en développement, tu n'as pas la même capacité de payer, puis tu n'as pas non plus la même valeur qui est générée à l'intérieur de leurs organisations. Fait que si tu prends tous ces morceaux-là, tant qu'à moi, c'est comme des dimensions que tu devrais ajouter à une genre de matrice de ton pricing. Fait que moi, ce que je dis, si tu veux essayer d'optimiser le prix par rapport à la valeur que tu génères, puis de créer un win-win qui est équivalent à travers tous tes clients, il faut que tu utilises ces morceaux-là, puis tu te montes une grille, tu te montes un système, puis que ça fonctionne. Le but, c'est pas de nager dans la complexité, et ainsi de suite. Il faut que ça soit facile pour les gens à l'interne de pouvoir le générer, puis il faut que ça soit facile pour tes clients de le consommer. Mais ils ne se parlent pas entre eux. Fait que si tu as un pricing pour le Canada, puis tu en as un pour la France, puis tu en as un pour l'Asie, on s'en fout. Mais tu devrais en avoir un différent, simplement que la valeur générée pour chacun de ces organisations. Puis là, ça pourrait être une startup versus un enterprise à l'intérieur de la même géographie. Tu veux que ça soit pris en compte. Puis, ouais, je te dirais que c'est pas mal ça qui est important.
J'adore, man. Puis, dans l'optique où tu as souvent l'architecture de menu, là, de genre un plan A, B, C, puis des fois le C, c'est Contact Us, ou le D, c'est Contact Us. Puis là, c'est juste moi qui freestyle, mais as-tu l'impression que dans la notion que c'est du poker, que c'est un art, que tu as comme une histoire à compter sur la valeur qui va être sauvée ou capturée de par ton pricing, as-tu l'impression que si tu as les ressources à l'interne pour assumer genre des démos, des sales calls, etc., c'est quand même bon d'être perméable sur le prix puis de mettre ce contact us-là parce que tu t'amènes le client dans une espèce d'endroit où tu as plus de contrôle sur ce que tu lui dis, l'histoire que tu comptes, tout ça, ou c'est comme... Parce que moi, ça me pisse off depuis que je suis genre jeune, là, d'être obligé de contacter tout le temps puis jumper à travers des hoops de qualification puis de avant que je réussisse à avoir le prix qu'il me faut chez Duda, c'était l'enfer réussir quand on avait des third parties. Là.
Ouais.
Fait que, ouais, parle-moi un peu de cette espèce de boot contact us-là.
Encore là, c'est tout dépendamment du sens que tu es en train de bâtir. Si tu as de quoi de très niché, très un use case, tu snipes, ça se peut que tu n'aies même pas besoin d'un contact us puis que ça fonctionne. Mais du moment que tu rentres dans une multitude de features, puis dans une complexité, puis dans des attentes assez élevées du client, de dire, hey, non, si je suis pour mettre 10 000, 20 000, 30 000 sur ton software, j'aimerais ça minimalement un contact humain, puis tu t'assures qu'il y a un bon fit entre nous deux. Fait que le côté contact us, qui toi, tu vois ça comme de la friction, dans un processus plus traditionnel ou en tout cas normal, je te dirais, moi, je vois ça comme une plus-value d'aller chercher de l'information que tu as besoin pour bâtir la meilleure solution pour le client et mettre le bon prix pour lui.
Okay.
Puis, tu sais, le défi avec le client, c'est pas nécessairement d'y mettre ça simple. C'est de trouver une manière élégante d'amener ça. Puis, la simplicité, c'est juste un morceau là-dedans, mais tu veux que ça coule bien, tu veux que ça soit facile, tu veux que ça soit seamless d'un certain sens, fait que sans friction. Mais si tu as trois options différentes puis tu as cinq add-ons différents, comment tu t'attends à ce que le client qui ne connaît pas nécessairement ta solution sélectionne les bons morceaux puis fasse comme « Hey, je commande ça », ça m'apparaît un peu utopique.
Fair. On move sur les rabais, qui est un gros sujet en soi, sur ça fit avec le pricing. Tu sais, on sort un peu comme d'une période avant les fights, là, où est-ce qu'il y a les Black Friday, le Boxing Day, des périodes où est-ce qu'il y a comme t'as une quantité phénoménale d'énergie qui est déployée sur designer, promouvoir, gérer des rabais. Puis les SaaS ne sont pas nécessairement tout le temps à l'abri. Il y en a plein que c'est une pratique qu'ils utilisent. De façon générale, appliquer des rabais, je pense que tout le monde va guesser ta réponse. Mais genre, tu penses quoi de ça?
Si tu voulais, je déchire mon chandail sur une question. Ça va être celle-là. Non, sans farce. J'ai vécu les deux. C'est-à-dire une relation où il y avait des rabais puis une relation où j'étais très stiff sur pas de rabais. Je te dirais que je préfère vraiment la deuxième.
Okay.
Pour de nombreuses raisons. Puis, je suis pas en train de dire que si vous donnez des rabais, vous mettez le doigt dans l'œil. Là. Je pense qu'il y a une manière intelligente de structurer puis d'amener les rabais. Puis, encore là, avec parcimonie puis avec subtilité, je pense que ça peut être bien fait. Règle générale, les gens qui ont le bouton sur les rabais n'ont pas nécessairement les incitatifs aux bonnes places pour bien gérer ça. Fait que moi, par défaut, je suis plus là à dire ça va être une politique d'entreprise beaucoup plus facile de juste dire pas de rabais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une manière de dévaluer tout le travail qu'on a fait en amont, de dire combien on devrait charger à ce client-là, puis quel prix on devrait mettre. Puis, si tu as besoin de donner un rabais au client pour qu'il signe, pose-toi deux questions. Un, es-tu le bon client? Puis deux, as-tu mis le bon pricing initial? Puis, mettons, ça amène un autre morceau, puis ça, il est plus relationnel. C'est de dire, moi, si quelqu'un m'arrive, puis finalement, m'offre une solution à 10 000, puis parce que c'est la fin du trimestre ou parce que c'est Noël ou le Black Friday, tu m'offres 20 % pour acheter ça, je vais faire comme, hey, t'as un mangeu de marde. Pourquoi tu m'as pas donné ce prix-là initialement? Ma relation de confiance avec toi est un peu brimée, que tu avais ça dans ton side pocket, puis tu me l'as offert dès le départ. Je fais comme, on n'est pas en train de travailler pour un win-win ensemble, tu es en train d'essayer de me vendre un char usagé. Là.
OK, intéressant. J'aime que tu sois tranché là-dessus. Tu sais,
pour moi, de charger cher à un client, c'est d'assumer puis de mettre tes culottes sur la valeur que tu amènes. D'utiliser des tactiques de vente dans le but de le squeezer, d'en prendre une décision un peu émotive sur ces affaires-là, j'adhère moins à ça parce que c'est pas une relation long terme. Puis on le sait très bien que le SaaS est bâti pour le long terme, pour la récurrence, puis pour l'expansion de ce que tu, la business qu'on va faire ensemble. Puis la même chose pour nous, tu sais, les services professionnels, c'est une relation, tu sais, c'est quelque chose de long terme. Puis si tu sens que je t'en ai passé une à some point, le lien de confiance est brisé, puis ça ne fonctionnera pas.
All right, folks. Break de 30 secondes pour vous parler de notre partenaire certifié Baseline, une firme d'accompagnement en intelligence artificielle. C'est des geeks puis des doctorants, mais avec plus de street cred que ceux que vous allez trouver dans Big Bang Theory, mettons. Ils ont accompagné plusieurs SaaS pour comprendre, collecter, valoriser leurs données. Pis c'est pas quelque chose qui est toujours simple, mais Baseline font drette ça, puis c'est des pros là-dedans. Fait que leur input vous permet d'identifier puis développer des fonctionnalités critiques, souvent améliorées par l'IA, abstraire votre proposition de valeur dans une interface chat, automatiser des workflows puis de la personnalisation UX, et plus encore. Donc, check out leur entrevue sur saspass.com/partenaire/baseline ou sur notre YouTube. OK? De retour au pod.
Instaurer des rabais, ça peut être considéré souvent comme une erreur que certains SaaS peuvent faire. On fait un mini-crush du pricing. Il y en a-tu d'autres? Parce que tu en as vu une puis un autre là, des SaaS passés ouais. Dans le chiffre, puis tu étais CFO chez Workleap qui était GSoft. Fait je me sentirais mal de ne pas te poser la question. Y a-t-il d'autres faux pas ou erreurs qui étaient comme pendant qu'on a une plateforme ou un qui est top of mind, qui est genre, il est récurrent dans les SaaS? Genre.
Je te dirais, c'est la stratégie spray and pray.
OK, explique-moi. Ouais.
Fait que, tu sais, puis là, je veux quand même pas me faire lancer des tomates puis pas que les founders ici qui me jugent. Je respecte énormément la vision, l'intuition. L'écoute client que ces gens-là ont pour bâtir la solution. Ceci étant dit, il faut quand même que mes bas bruns sortent une fois de temps en temps. Puis le SaaS, c'est quand même un numbers game. Il y a énormément de métriques, énormément de choses qu'on peut calculer, réfléchir, établir des hypothèses, puis après ça, valider en temps réel. Fait que de nombreuses fois, je me suis fait dire « Hey, on priorise ça dans le backlog. » Je suis comme « OK, ça va coûter combien de 1? Puis qu'est-ce que ça va changer sur nos key metrics? À quel point on va être capable de charger plus cher aux clients? Combien de clients de plus on va être en mesure d'aller chercher? C'est quoi la rétention que ça va faire? Qu'est-ce que ça change au niveau de notre positionnement puis du côté défensif qu'on veut prendre? » Puis souvent, je ne suis pas en mesure d'avoir la réponse là-dessus puis je ne suis même pas en mesure d'avoir une comparaison entre les items du backlog. Fait que ce que moi, je trouve absolument terrible, c'est qu'on n'est pas en train de se poser cette question-là autant au niveau produit, mais aussi au niveau de l'acquisition de clients. Fait que pourquoi tu prendrais un deal avec SaaSpace plutôt que de mettre du Facebook Ad puis toutes ces affaires-là? Il n'y a pas nécessairement les hypothèses, puis le data tracking, puis le retour qui doit être fait sur ces morceaux-là.
Est-ce que des fois, parce que moi, c'est sûr que moi, je viens plus du milieu bootstrap, fait que avant d'avoir une espèce d'intelligence d'affaires à l'interne du BI, là, puis d'être capable justement d'extraire toutes ces data-là dont tu parlais pour éduquer des décisions, qu'elles soient produits ou pricing, des fois c'est long. C'est comme pas priorisé nécessairement. Moi, ça a pris 7 ans, dude, avant qu'on ait genre, assez d'analytics en place pour être capable d'émettre des hypothèses, interroger un peu certains modèles, faire comme OK, ça risque de vraiment marcher. Une fois qu'on l'a fait, ça a-tu marché? As-tu l'impression que c'est que la data n'est pas là des fois? Quand?
Non, la data, surtout maintenant, là, je te dirais, il y a 10 ans, c'était peut-être un autre paire de manches, mais maintenant, c'est beaucoup plus mature. Puis mon point, c'est pas d'être à la recherche d'une exactitude, c'est d'être à la recherche d'une absence d'inactivité. Okay, tu vois, c'est the other way around. De peser sur le gaz dans une direction sans te demander où c'est que tu t'en vas, ça m'apparaît complètement paradoxal. Fait que prenons le temps de décider, on veut-tu aller à Québec, où ce qui fait froid, ou d'aller à Montréal, où ce qu'on est bien? C'est des farces. On a eu du verglas, de la slush, puis tout. Fait que c'est le seul jab que j'ai envoyé à Québec aujourd'hui.
Je suis à Montréal en ce moment.
Exact. Mais ce que je veux dire, c'est que pose-toi la question, où est-ce que tu veux te rendre? Ah. Puis après ça, pince le gaz.
Puis comment les founders réagissent? Parce que là, je t'entends dire tout ça, là. Je me rappelle justement du moment où on était pas instrumenté et équipé. Oui, la data raw elle est dans ma BD, dans du tooling qu'il faut que j'aille chercher ou mettre, puis que j'aurais pas été capable de répondre à ça, là. Ça m'aurait fait chier.
Mm-hmm.
Genre, fait que comment tes founders que tu conseilles et que tu accompagnes réagissent à ça? Ils sont comme shit, back à la planche de dessin, on te revient avec des hypothèses un petit peu plus
chiffré. Ouais. Bon clin d'œil.
Merci.
La première réaction, c'est classique. C'est en dire « Ah, prends trop de temps, on est déjà avancé. » C'est comme, on essaie de le shrug it off parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a toujours fait puis la manière qu'on pense. Mais généralement, ça sème une graine puis y a une évolution qui se fait dans cette direction-là. Puis tranquillement, pas trop vite, le discours se rabat davantage sur des faits, sur des hypothèses, puis on est en mesure de structurer un petit peu plus la patente. Mais, tu sais, c'est tough, là.
Ouais. Puis, mais moi, ce que j'aime, c'est qu'une fois que tu as des faits, des chiffres, ça enlève toute l'espèce de couche, des fois, de « OK, moi, je parle vraiment fort, puis je suis vraiment confiant, puis comme c'est ça qu'on va faire à cause que je suis confiant, puis je parle vraiment fort. » Ouais. C'est comme ça amène une espèce d'approximation de la réalité que les décisions peuvent se prendre autour de ça. Ça enlève des genres de facteurs un peu comme, je sais pas, là, genre personnalité ou d'ego. Je sais pas comment l'expliquer, man.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ceci étant dit, je crois quand même à la magie de l'innovation puis à la créativité. Puis on veut pas non plus mettre un couvercle, un limitant là-dessus. Fait qu'il faut qu'il y ait comme le yin et le yang autour de ces deux forces-là pour qu'un nourrisse l'autre. Mais pas qu'un prenne le dessus sur l'autre. Puis c'est un peu ça, mon spray and pray, c'est quand c'est juste on est YOLO, puis comme on tire partout. Hey, time out, on peut sniper une fois de temps en temps, tu sais.
Ouais, puis tu peux builder de la dette technique, tu peux builder de la dette de messaging, ça peut coûter cher de failer à un spray and pray dans exact. Le futur aussi.
Puis, tu sais, on va se le dire, le plus grand défi qu'un SaaS va avoir, c'est de gaspiller son runway, gaspiller son temps, gaspiller son window à faire n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le défi quand tu es un SaaS, c'est d'aller chercher de l'attraction, puis après ça, jamais le perdre, puis d'essayer d'accélérer sur ces affaires-là. Mais imagine des faux mouvements, comment ça recule, puis ça retarde, puis ça peut même chier ta traction. Tu veux pas ça, là.
Puis, je veux push back sur la notion de monter les prix, tout ça, avec une hypothèse, mettons. Mon hypothèse est la suivante. J'ai vu, quand justement, là, on était dans une contraction économique puis qu'il y avait moins de cash qui était lancé dans n'importe quel software puis tout ça, j'ai vu ça chez Duda aussi arriver, une espèce de réduction du nombre de SaaS utilisés, une remise en question de genre, yo, on a-tu besoin de 17 SaaS pour faire notre outbound marketing, whatever? Puis ça, on pourrait nommer ça le SaaS fatigue, un petit peu genre,
ouais.
As-tu l'impression que ça pourrait être une force qui est quand même présente dans la tête de plusieurs, mettons, procurement service, procurement département ou whatever, le monde qui décide, on paye-tu pour ce SaaS-là ou pas, qui pourrait jouer contre le conseil de raise prices, puis c'est vraiment une hypothèse?
Je vais te répondre ma réponse préférée, oui.
Ouais, je sais que tu me dis ça. Tout le monde de ta gang.
Ouais, ils sont écœurés, pour vrai. Ils sont comme, ah yes, on va voir Frank, tu sais, la conversation va être différente. Puis là, je fais comme mes jokes, mes dad jokes, mes nouilles, puis ainsi de suite.
Parfait,
exact. Mais j'aimerais ça rappeler à ma gang qu'on est numéro un sur toute la ligne.
Ça aussi, c'est un. Ok,
je start toutes mes assemblées générales avec ça. Puis, c'est
un bon catchphrase avec votre branding. Ben, je l'adore. Moi, je l'avais dit à Tom Fick.
Yes. Moving mais on. Je pense que ça vient de Étienne Mirino, cette tagline-là, Workly, oui, Payday, et ainsi de suite. Ouais. Gars absolument incroyable. Notre branding, c'est lui, là.
Il est dans mon inbox, puis Berge me dit, lui, il devrait venir sur le pod.
Oui.
Si t'écoutes ça, Étienne Mirino.
Prépare 3h30 minimum.
Fait qu'on fera pas en live.
Non, fais-le pas en live.
C'est bon. All right.
Good.
Fatigue. Ouais.
Je te dirais que cette remise en question-là dans le temps de contraction, c'est normal. Ça touche pas juste au SaaS. Mm. Ça touche à tous les trucs. Fait que ça, pour moi, c'est comme plus un trend de contraction économique que d'utilisation de SaaS. Il y a quand même de quoi que nous, on travaille d'une manière très intense, c'est l'intégration de systèmes. On a toujours travaillé dans le cloud. On a toujours prêché pour l'absence d'entrée manuelle ou de double entrée, et ainsi de suite, puis d'essayer d'avoir de quoi qui est consolidé. Les SaaS ont compris ça et sont capables de bien parler entre eux. Fait que t'en as, t'sais, nous autres, on en a une vingtaine, mais la plupart communiquent ensemble ou on a Zapier pour faire le pont, puis on est capable d'avoir un écosystème à l'intérieur qui se tient. Fait que oui, c'est un problème, mais en même temps, si tu es mal intégré comme micro-SaaS, tu cherches le trouble en Simonac.
Ouais, ben c'est comme un segue dans mon prochain point qui est depuis que je m'intéresse à l'industrie SaaS en macro, puis pas juste genre dans mes opérations quand je commençais chez Snipcart, il y a un discours de fond sur des mouvements de consolidation de l'industrie SaaS puis de fragmentation de l'industrie SaaS. Une micro-feature qui est un SaaS en soi versus, à leur proposer, un SaaS qui fait tout, all-in-one. As-tu l'impression que la pendule va d'un bord ou de l'autre? Comment toi, tu vois ça?
Je te dirais que je vois tout ça. Fait que pour ouais. Mais je résume, il y a trois mouvements que les SaaS font. Soit qu'ils essaient de toucher à tout. Fait que c'est littéralement c'est un ERP qui est vraiment fini par tout faire. Puis ça, c'est une tendance. Il y en a d'autres qui, à l'inverse, ils essayent de nail down une niche puis de rester là. Puis à l'inverse, il y a du monde qui se verticalise en disant « Je veux être l'outil de gestion interne pour les agences québécoises. » Puis là, ils se disent « On va être les seuls là-dedans, on va comprendre exactement comment ça fonctionne puis on va gagner dans ce marché-là. »
Ouais, fait que tu peux te choper à l'horizontale ou te choper au vertical.
Ou même être un petit morceau dans l'échiquier complet.
OK.
Tu n'as pas besoin de nailer toute la verticale, tu as juste besoin de nailer un morceau et de ne pas vouloir t'étendre. Puis ça, je crois ça vraiment possible, puis encore plus maintenant, non seulement avec les capacités d'intégration puis les API qui sont ouvertes et ainsi de suite, mais aussi avec l'arrivée du AI. Tu sais, le AI dans le développement, on l'a tout vu, puis on sait ce que ça peut faire, mais ça va réduire les barrières à l'entrée où ça va être beaucoup plus facile de créer du code. Ça va beaucoup être plus facile de faire des ponts avec d'autres business, ce qui va faire deux choses. Un, ça va permettre à tout le monde dans la salle un jour de peut-être se partir un SaaS, ce qui était plus restreint il y a une dizaine d'années pour du monde techie puis des ingénieurs et ainsi de suite. Puis ça va réduire grandement les coûts de développement. Fait que pour moi, la valeur de quelqu'un qui est en SaaS va être beaucoup moins sur son engineering, mais beaucoup plus sur sa compréhension du client, la compréhension du use case, puis comment on devrait solutionner le client puis son use case ensemble. Puis du moment que tu es en mesure de nailer ça, tu vas avoir de l'attraction, puis tu vas être en mesure de te démarquer. Puis après ça, bien, c'est de voir c'est quoi tes prochaines itérations, tes prochains moves pour soit grandir d'une manière verticale, en grossir ton moat au niveau de ce que tu essaies de faire ou d'élargir au niveau horizontal.
Bien, justement, je vais piggybacker sur la notion de moat, là, d'avoir une espèce d'avantage compétitif qui est dur à franchir pour les autres. Puis on checkait les trucs de Greg Eisenberg un petit peu quand on surveillait des ressources. Puis c'est un autre vraiment cool. Je pense qu'il vient de Montréal aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Whatever. Fait qu'il parlait justement de community puis marketing as a moat versus genre IP puis tech as a moat. Puis j'ai l'impression, quand tu check, c'était vraiment genre shipper du bon code at scale, secure, il y a plusieurs années. Même encore aujourd'hui, là, oui, l'AI, mais c'est tough, right? Fait que ton mode pouvait être technologique, j'ai l'impression. Puis dans un monde un petit peu fast-forward, comme tu dis, AI-driven, où est-ce que la barrière à l'entrée de la création d'un SaaS ou d'un produit est beaucoup plus basse, j'ai l'impression que ce qui va être tough dans un monde aussi bruyant que ça, avec autant d'offres que ça, c'est justement positionnement, branding, marketing, communauté. Puis ça, c'est juste une pensée que depuis qu'elle m'est comme apparue dans la tête, j'y pense chaque jour. Quand je pense à ce que je veux faire pour que ça se passe, ou même aux entreprises dans le futur que je voudrais lancer, c'est quelque chose qui trotte, qui trotte, qui trotte.
Ce dilemme-là, pour moi, vient de l'homme versus la machine.
Oh shit.
Ouais, on est deep, là.
Je m'en remets. Ouais, ça. Ah.
Sois prête. La machine peut livrer du code, peut bâtir des features, peut vraiment comme automatiser les choses correctement. Ou ce qu'elle va avoir un petit peu plus de misère, c'est de te faire vivre une émotion. C'est de te faire sentir que tu belongs, te faire sentir que tu es compris. Puis c'est elle a la différence. Quand tu as dit, hey, le mot passe de IP technologique à plus expérience. Tu sais, c'est une expérience, c'est de l'émotion, c'est vers là que ça va changer. Fait que ça revient un peu à ce que je disais, il faut que tu sois tout seul, mais si tu es unique, si t'es toi-même, très difficile pour Frank de se passer pour Jean-Gab, puis Jean-Gab se faire passer pour Frank.
Ouais.
Fait que le but, je pense, en tant qu'entrepreneur et entreprise, c'est d'essayer d'être unique, puis que ça soit facile d'être toi-même, puis de bâtir la valeur que tu essaies d'amener de cette manière-là. Puis après ça, tu vas attirer les gens qui sont à la recherche d'exactement ça. Puis je veux dire, tu le fais super bien avec SaaSPass. C'est le même que tu m'as conquis.
Ouais, ça résonne beaucoup avec moi. Ça fit, puis j'encourage le monde à y réfléchir à ce cadre-là pour, tu sais, comment distinguer.
Puis ce que moi, j'aime là-dedans, c'est qu'il faut arrêter de l'overthinker. Tu sais, les gens sont comme, comment je devrais coder cette feature-là ou comment je devrais... Puis on est rendu dans le micro-détail. Pense à tes meilleurs chums. Ils t'ont fait des niaiseries dans ta vie, là. Emile. Assurément. Emile garantie, là. Et ce qu'il faisait avec le micro tantôt, c'était...
C'était un enfer.
Ouais, exact. Mais combien de choses que tu lui as pardonné parce que ta relation avec lui est extrêmement forte?
Ce qui est fucking drôle, c'est que c'est vraiment l'inverse.
Okay, ouais. Mais tu comprends que ça s'applique de même. Mais,
oui, je m'excuse.
Sans dire que tu vas être meilleur ami avec un de tes SaaS, mais si le niveau de relation que tu bâtis avec tes partenaires est à ce niveau-là, tu vas pouvoir... comment je pourrais dire, rattraper une coupe de balles que tu drops.
Oui. Puis je pense que pour bridger, pour créer cette relation-là forte dont tu parles, qui est un petit peu forgiving, là, qui met de la place au pardon, peu importe, je pense que si tu veux bridger la relation numérique digitale avec des événements, des rencontres, le mix entre le in real life, le présentiel puis le digital, s'il y a un overlap entre ces deux communautés-là, ça fait de quoi de fort. Puis c'est une thèse, entre guillemets, qu'on a déployé, qu'on a misé dessus dans SaaSPass, tu sais. Puis même dans Snip, tu sais, il y avait des meet-ups, on organisait des meet-ups, les conférences clés, on était là, jouait du good un peu, puis on avait du fun avec les autres programmeurs qui consommaient notre software. Fait que, ouais, j'aime bien ça.
Puis tu sais, je vais faire du parallèle avec Raise Prices et ainsi de suite. Tu vas pouvoir te faire... les gens vont te l'excuser, vont te le pardonner que tu montes tes prix tant si longtemps que... tant que tu l'expliques, tant que ça t'amène cette valeur émotive-là. Nous autres, on a un service provider qu'on pensait qu'on avait un deal lifetime avec eux autres.
OK.
Puis on dit, no go, votre grandfather, il n'existe pas. Puis c'est drôle parce qu'on a de quoi d'imprimer ici, signé, encadré depuis super longtemps. On a dit que c'était notre réussite du chiffre, c'est qu'on avait un deal lifetime avec eux autres. Puis là, en ce moment, ils sont en train de le challenger.
Wow.
Ils l'ont même pas challengé, ils l'ont juste invalidé.
OK.
Ils ont dépassé les bornes. Ouais. Puis, tu sais, là, en ce moment, c'est quand même quelque chose qui était au centre de notre offre. Mais de la seconde qu'on peut sortir de ce SaaS-là, on va
fini,
le faire.
Ouais, la confiance.
La confiance est dead. Puis, tu sais, on a laissé aller tout plein de choses. On les a choisis au vœu des compétiteurs. Puis, comme, nous autres, on était comme mes bains blood avec eux.
C'est-tu vrai qu'il est encadré, le deal?
Là-bas.
Dude, c'est sûr qu'on va voir après.
Ouais. Mais juste le voir, pas te prendre de photos. Puis
non,
de suite,
non, non, exact, c'est ça.
Mais de toute façon, juste.
Aller le cacher.
Ouais, exact, exact.
OK, dude. Puis là, on va liner vers la fin, puis on va ouvrir après pour des questions. S'il y a du monde qui veulent, il y a une ligne de questions qui est pas loin du gars de son, pas loin de Ludo qui est debout, The Real Pussycat. J'ai deux questions pour finir. La première, c'est ma classique un peu plus philosophique que j'aime toujours poser. Y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les 5 dernières années?
J'ai grandi, puis j'ai... professionnellement, j'ai grandi énormément chez Workleap. Puis on était très irrévérencieux, très Silicon Valley dans notre approche, où ce que on voulait détonner de la business plus corporate, de la structure en général. Puis notre ambition à tous et chacun, de manière intrinsèque, était suffisante pour nous motiver puis pour nous diriger dans les bons endroits, dans les bonnes directions au niveau de la business. Puis pour moi, j'ai opéré de même super longtemps puis ça a fonctionné. Dans ma tête, c'était quelque chose qui se répliquait at scale facilement. Ben, c'est pas vrai, là. Il y a une raison pourquoi il y a du partage d'informations en amont. Il y a des objectifs qui sont mis annuellement, trimestriellement. Il y a des one-on-one qui sont faits, puis il y a une structure managériale autour de ça. Nous, c'est quelque chose qu'on a comme mis un petit peu plus de l'avant, puis sans dire qu'on est devenu un régime militaire avec de quoi, ou ce que si tu n'atteins pas tes chiffres, t'es out, et ainsi de suite. Pas pendant tout ça. Mais on est venu rajouter, je te dirais, une structure supplémentaire, juste une discussion pour dire, hey, ta priorité, tes priorités, puis là, tes priorités, c'est un paradoxe, là, mais ta priorité pour les 3 prochains mois, c'est vers ça. On s'entend, oui, as-tu besoin de mon aide? As-tu besoin des moyens pour atteindre ça? Oui, non, peut-être, puis let's go. Mais juste de mettre ce minimum de filet-là. Moi, initialement, je pensais pas que c'était possible. Puis maintenant que j'ai ça, je suis comme, hey, j'étais cabreur.
Moi, avec Snipcart, je l'ai vécu à une petite échelle. Là, on était 3-4 boys qui étaient tout le temps ensemble versus quand on était 20. Puis juste après ça, être fait acheter, tout ça, c'est comme différent. Ouais. J'appelais ça le minimum viable process. Parce que oui, on haït ça. Oui, on va être un petit peu, comme tu dis, révérencieux. Mais comme un moment donné, pour que tout le monde s'enligne pas mal dans la même direction, ça prend un minimum de structure puis de process. J'aime ça, d'autres. Je pense que c'est la sagesse de entrepreneur qui mature, qui rentre aussi, puis tout.
34 ans.
T'as 34? Moi, genre 34, le 8 février, si jamais le monde veut le mettre dans leur calendrier.
Nice.
On finit avec les shameless plugs. C'est-tu des job openings, des services à promote, peu importe?
J'ai trollé de services à promote, mais je vais essayer de garder ce cours. On a des postes un poste en transformation numérique.
Okay.
Fait que vraiment, des comptables ingénieux ou des ingénieurs comptables, on est à la recherche de ça. Spécialiste en paye aussi, c'est ouvert. Fiscaliste dans un environnement où on est très axé sur l'entrepreneur, très dans l'optimisation de situation, très proche de la personne, c'est là. On est toujours à la recherche de CFO fractionnel, de conseiller financier, si on veut, pour start-up puis scale-up.
Okay.
On est quand même une bit-bit différentes. On n'est ni un cabinet comptable, ni un McKinsey de ce monde. On est un peu tout seul, le clin d'œil à ce qu'on parlait. Fait qu'on est toujours à la recherche de rencontrer des gens, de voir s'il y a un fit, comment on est capable de grandir avec ces gens-là, puis comment eux autres peuvent grandir. Au niveau service, c'est le full scale au niveau de la fonction financière. Fait que ce soit vous avez besoin d'aide pour vos subventions, que vous voulez moderniser votre environnement, on est fournisseur accrédité au niveau de la PECAN. Vous avez besoin de l'aide pour de la modélisation financière, pitch deck pour monter du financement, ça fonctionne. Puis je vous dirais que c'est du beau gravy, c'est des gros buzzwords, mais au core de nous, on a une équipe comptable ici qui est sincèrement absolument incroyable. Fait que les choses qui... D'avoir de la visibilité financière qui te parle, d'avoir une rigueur qui est super solide, que ta TPS, tes véhicules et tes impôts soient bien gérés en avance. On fait ça comme des brutes ici. Puis je suis super impressionné et super fier de l'équipe qu'on a.
Nice, man. Très cool. Fait que lechiffre.ca ou Thomas-Louis Lafleur, Jean-Gabriel Crevier sur LinkedIn. Voici le call to action.
That's it.
Good job. Pas grave. Fait quoi, il y a une ligne de micro pour les questions, là. Je sais pas si je l'ai... Oh, wow! Une lumière qui va dessus. Ouais, c'est ça, là, vous allez être dans l'épisode du pod, dans la vidéo, tout ça. C'est ça. Puis juste dire votre nom quick, poser la question quick, pas besoin de nous compter genre une histoire de 10 minutes. Non, mais c'est pas juste... non, c'est pas juste les choses, c'est... Je commence à avoir un peu d'expérience. On voit, tu vois-tu, toi, d'autres?
OK. Salut, moi, c'est Pierre-William. Merci pour la belle conversation. Tu mentionnais que vous faites du... Plus proche, okay. Tu mentionnais que tu fais du value-based pricing. Tu mentionnais aussi que la vente, c'est un peu comme une game de poker. Puis, je peux très bien voir comment toi, avec l'expérience que tu as, tu peux être très bon à faire du value-based pricing. Ma question, c'est, as-tu réussi ou avez-vous réussi à le scaler à des gens dans votre équipe de vente qui n'ont pas tout le knowledge que tu as, toi? Mm. Puis, si oui, est-ce que vous avez développé aussi des outils ou en tout cas, comment ça s'est passé?
C'est une super bonne question. Je pourrais m'amener un membre de l'équipe pour venir répondre à cette question-là. Ça a été quand même un gros switch pour nous au niveau philosophique. Fait qu'on a dû, monter des outils. Fait que oui, on en a. Je parlais d'une matrice de proposition, de pricing et ainsi de suite. On a monté ça à l'interne. On a fait des formations, on fait de l'accompagnement au day-to-day. Puis on a monté ce qu'on appelle un value council. Fait qu'un peu... une manière de venir pitcher, partager ce quoi tes objectifs dans ton mandat puis ce que tu t'apprêtes à faire pour le client, comment tu le packages, comment tu le mets en comparaison avec d'autres alternatives, parce qu'il n'y a pas juste une manière de régler un problème, il y en a plusieurs. Puis après ça, c'est d'avoir d'échanger sur les objectifs derrière, sur l'historique du client, vers où il s'en va. Puis est-ce qu'on est d'accord avec qu'est-ce qu'on met de l'avant?
Faites-vous du... Je vais bander là-dessus, mais faites-vous du pairing un petit peu? Là, mettons, OK, là, j'ai du value-based pricing à vendre à tel genre de client. OK, telle personne dans ma team ou plus senior ou juste qui a de l'expérience avec ça. Pairez-vous un petit peu de même?
Je te dirais que pour ce sujet-là, c'est quand même moi le champion, si tu veux. Pas parce que je pense que je suis meilleur que tout le monde, mais parce que ça me passionne, comme tu as pu l'entendre.
Tu vas pouvoir être cette ressource-là
un peu. Oui, exact. Fait qu'on a comme un channel Slack où tout le monde est là, puis c'est open. Puis les gens viennent faire comme « Hey, j'ai travaillé sur ce mandat-là potentiel. Voici comme les hypothèses ou les tidbits là-dessus. Voici le travail que j'ai fait. On peut-tu en parler? » Et ainsi de suite. On essaie d'avoir ça de la manière la plus transparente possible pour que les bons coups ou les feedbacks soient un peu live pour tout le monde. Mais je te dirais que c'est quand même un switch qu'on a fait il y a 3 ans-ish. Les OG qui ont passé à travers ça sont rendus vraiment sa coche, vraiment solide. Puis en ce moment, je suis comme plus thumbs up ou petit commentaire de côté. Mais c'est culturel. Ça fait partie comme des mœurs puis des processus qu'on a. Fait qu'un peu oui à toutes les questions qu'il y a eu.
Nice. Excellente question.
Ouais, thanks.
On a-tu une autre question?
Oh!
Moi, c'est Cédric.
Bonne fête.
Merci.
Hey, bonne fête, dude!
Tu as parlé au début du podcast que typiquement pour un SaaS, il y avait 2 types de clients. Les clients qui voulaient résoudre un problème puis les clients qui voulaient saisir une opportunité. Donc ça découle un peu entre les clients qui ont des coûts directs, qui découlent d'un problème, ou qui ont des coûts d'opportunité. Typiquement, en finance, un coût d'opportunité versus un coût direct, les gens peuvent avoir un certain biais cognitif puis pas les voir de la même manière. Est-ce qu'en pratique, est-ce que ça se répercute dans ton pricing? Est-ce que tu peux faire un pricing, est-ce que les clients vont réagir différemment selon si c'est un problème ou un coût d'opportunité? Puis est-ce que tu vas adopter une stratégie de pricing différente selon ce type de client-là?
Encore là, super bonne question. 100%. Je vais répondre très directement. Du moment que c'est tangible, le mandat qu'on vient faire ou la solution que je te propose te permet de réduire tes coûts salariaux de 100 000 $ bien, c'est tangible, c'est facile pour toi de l'activer. Puis si je te charge quelque chose entre 30 et 60 000 $ pour faire ça, tu vas faire comme « c'est un no-brainer, let's go, j'y vais de l'avant ». Là, tantôt, j'ai dit qu'il y avait un premier sujet qui me donnait envie d'arracher mon chandail. Ce que tu as mentionné, c'est le deuxième. C'est extrêmement difficile et complexe de faire réaliser qu'un client potentiel passe à côté de quelque chose. Fait qu'il faut que tu maîtrises cet art-là, il faut que tu trouves les bons mots, les bons endroits à appuyer pour qu'il fasse comme « Ah, Chris, ça fait mal ». Je ne savais pas que j'avais un bobo ici, puis finalement, tu me mets en lumière que je suis en train de passer à côté du Klondike, et là, je veux m'activer. Mais reste que si, mettons, tu prends le pourcentage de prix que tu es capable de mettre sur quelque chose de tangible versus un coût de renonciation, c'est pas le même. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Puis alors, encore là, de dire est-ce qu'il faut que tu mettes 20%, 30%, 40%, c'est un gauge, mais c'est toujours plus bas que quelque chose qui est tangible.
Poser une autre question. Quand tu as parlé des rabais tantôt...
C'est quoi ton nom?
Phil Chartrand, excuse-moi.
Thanks.
Salut. Quand tu as parlé des rabais tantôt, tu as comme tourné un peu ta réponse vers ta propre compagnie qui n'est pas un SaaS, right?
Je parlais d'une expérience passée.
Okay.
C'était en SaaS.
OK, super. Ouais. Parce que moi, je le sais, parce que j'ai un SaaS, mais j'achète plein de SaaS. Je négocie comme un malade à chaque fois. Ouais. Parce que je sais que leur marge est... T'sais, elle est grande, puis ils n'ont pas. Une fois que tu as acquis un client, tu n'as plus vraiment de frais. Là, fait que tu peux te permettre de négocier vraiment beaucoup. Puis tu disais tantôt comme quoi c'est peut-être. C'est le genre de client que tu veux avoir. Fait que moi, c'est comme si tu disais, genre, moi, je suis peut-être pas le bon client pour les âges que tu négocies. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire par ça, par rapport à ta business de service.
L'affaire, c'est que la raison pourquoi tu négocies en ce moment d'une manière super intense, parce que ça a fonctionné par le passé. Fait que. Tu as un use case passé qui t'a amené des bénéfices de faire ça. Si j'étais ton account manager du SaaS que je te vends, je trouverais une manière très élégante, très amicale de dire que ce n'est pas dans nos pratiques, que dans les 5 dernières années où j'ai fait ma job, je n'ai pas donné un discount, puis que j'ai mis de nombreuses heures à te packager une solution parfaite pour toi puis que j'ai mis le meilleur prix pour toi. Fait que je pense plus que c'est d'essayer d'amener ce niveau de relation-là, ce niveau de confiance-là, pour que quand je te dis ça, puis que c'est vrai, là, tu me crois, puis qu'à toutes les fois qu'on renouvelle ensemble, tu te dises « Hey, je peux négocier les 8 autres, mais lui, je le négocie pas. » Puis tu sais, l'affaire, c'est que dans la vie, il y a des millions de deals potentiels. Puis si tu chases ces millions de deals potentiels-là, tu vas mettre de l'énergie sur du monde qui ne mérite pas ton temps, puis tu vas passer à côté du monde qui aurait mérité ton énergie. Tu veux essayer de te bâtir un genre de filtre à l'intérieur de ton funnel là, pour essayer d'avoir le monde avec qui ça va être facile de dealer puis que ça va être nice. Négocier pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ceci étant dit, quand je te dis 1, 2, 3 fois que ce n'est pas une pratique puis tu continues, à un moment donné, tu me fais perdre ton temps, tu me fais perdre mon temps puis tu me fais perdre ton temps. Fait que c'était plus dans cette optique-là de dire « soyons clairs » puis assurons-nous d'avoir un bon fit avec ces gens-là. Puis pas juste ça, assurons-nous aussi de faire la meilleure offre à nos clients day one, puis qu'ils comprennent que c'est ça qui se passe.
Puis tu sais, en termes de classe de users que tu veux pas avoir, là, la personne qui négocie une fois sur un rabais du pricing initial, mettons, c'est une chose. Mais c'est là qui fait ça, puis après, report genre des bugs, chiale, te fait un tweet si t'as pas répondu assez vite, par email. Tu sais, ça, c'est la classe de citoyen que tu veux... pas avoir, là, idéalement. Puis t'es pas ça, Phil, man. C'est ça, j'essaie de dire.
Mais ça répond à ta question?
Ouais, ça répond à ma question. Puis tu sais, c'est juste en tant que founder, tu fais tes ventes, tu sais que ta marge est tellement élevée que tu peux. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dire, je te donne un mois gratuit, mais je te fais le même prix que les autres. Ça passe un peu mieux puisque tu sais qu'une fois que le mois est passé, il n'y a plus de rabais, puis c'est fair pour tous les clients. Mais c'est quand même tentant de faire un petit rabais des fois quand tu sais que c'est un client qui. Son lifetime value va être immense, tu sais, pareil, puis tu as réussi à le pogner avec ton petit rabais au début. T'sais.
For sure, mais comme je te dis, c'est que tu ouvres une porte pour potentiellement plus. Fait que c'est pick your poison.
Mais moi, I've been 100% hooked en ce moment. Là, je me rappelle, Jean Gab disait des affaires, m'en pas, puis j'étais comme, oh man, la quantité de deals que j'ai fait dans Snip, il y a genre 5 ans, que j'aurais peut-être pas dû plier ou quoi que ce soit, mais c'est. Ouais.
Mais sa face, c'est qu'encore là. T'es rendu loin dans le processus d'achat. Tu sais, si c'est ça qui. Si c'est 10% de la facture, là, puis là, dans ce cas-ci, d'un mois sur 12, c'est encore moins que 10%, c'est ça la différence pour qu'on fasse affaire ensemble.
Quick math.
Tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit un no-brainer. Tu sais, il faut que le handshake se fasse comme un peu par magie.
Je comprends.
Si t'étais là à essayer d'optimiser des scènes, c'est parce que je t'ai pas. Un, t'es peut-être pas le bon client pour moi, ou je t'ai mal pitché la valeur que je devais amener, tu sais.
Ouais, fair. Mais c'est une fucking bonne question, dude. Merci. Hello, hello.
Joliane de l'application Sécup. Je voulais savoir, on a parlé, mais très brièvement, de la grand-périsation des prix. Quand je change mon prix sur ma page web, ceux qui utilisent déjà mon application, eux, combien de temps après que j'aille changer mon prix sur ma page web que je peux dire comme là, OK, c'est le temps que tu payes le même prix que les autres?
On aurait dû parler plus de ça, d'autres, je viens comme de flash. Merci pour la question.
Tu sais, pour moi, c'est toujours une affaire de gestion d'attente. Si je te surprends avec ça, si je double mes prix du jour au lendemain puis que je te donne l'impression que je te squeeze intense, c'est sûr et certain que ça va moins bien passer.
Ça revient à la confiance.
Beaucoup, exactement. Puis pas juste ça, c'est que quand tu en fais une pratique récurrente, je vais te donner un bon exemple, puis c'est un moyen exemple parce que c'est un peu plus du B2C, mais Netflix, là, ils sont partis à 8$ par mois, même pas, puis ils sont rendus facilement au double si c'est pas bientôt le triple. Ils nous ont habitués à tous les ans d'augmenter une pièce de plus. Puis, quand même, j'ai accès à 1000 heures de contenu, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est vraiment plus comment on l'approche. Si on est d'avance, si on n'est pas en train de squeezer le client, puis si on a des bonnes relations avec eux. Mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas les confronter aux faits accomplis. Puis tu veux essayer de leur donner des options. C'est-à-dire, hey, si tu trouves que c'est trop cher, peut-être qu'on peut downgrader, peut-être qu'on peut regarder comment tu utilises mal les features et ainsi de suite. J'ai pour mon dire que tu peux sacrer une claque à n'importe qui dans la vie, OK? Tant aussi longtemps que tu es à côté de lui pour la recevoir. Fait que, tu sais, si moi...
Je sais pas, j'aurais peur ou... Ouais,
non, mais c'est philosophique.
All right.
Mon point, c'est que l'augmentation de prix, surtout si elle est agressive, va être perçue comme une claque. Puis si moi, je suis là, puis je te le dis d'avance, si je l'explique avec des choses qui vont te le faire internaliser puis qui vont te le faire accepter qu'il y a de l'allure, et si en plus, je prends le temps pour te dire « Hey, si tu trouves que c'est trop cher, tu penses que c'est plus un bon deal de faire affaire avec nous avec nos nouveaux prix, c'est possiblement parce que tu n'utilises pas la plateforme à sa meilleure expression. Je vais prendre le temps d'analyser comment tu regardes les trucs, puis je vais m'assurer que tu l'utilises à sa pleine valeur, puis là, tu vas comprendre pourquoi je te l'augmente. »
OK, je le prends. Je double-clique rapidement. Tu as parlé de « je te donne les bonnes raisons, je contextualise pourquoi ce price increase-là est en train de se passer. » Penses-tu, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup mettre de couches narratives, puis beaucoup mettre de contexte, puis d'en mettre, tu sais, d'expliquer, genre, pour être sûr de... C'est probablement mon côté anxieux de, genre, prévoir le pire, là, tu sais, un petit peu. À quel point tu dois donner une narrative, donner des raisons? À quel point tu le fais dans ton annonce, qu'elle soit grand-périsée ou pas? Moi, j'ai toujours raconté une petite histoire autour d'un pricing change pour être sûr que... « All right, guys, si on a du support de marde qui rentre, c'est ça qu'on dit. Mm-hmm. Puis on est tous d'accord dans l'équipe. OK, on y va avec ça. »
Dans le meilleur des mondes, tu désamorces cette marde-là qui rentre, tu sais.
Ouais. Désamorce la marde.
Exact. Tu sais, à la fin de la journée, tu veux que ça soit compris pourquoi tu fais ça. Puis à un moment donné, fais un business que si je te donne de quoi, de GDPR compliance, SOC 2, du SSO... plein de trucs de plus dans mon SaaS, ben il faut que je rentabilise l'investissement que je viens de faire. Puis je veux dire, j'espère que tous les business font ça. Je veux dire, on n'est pas là pour juste donner des trucs parce que on fait affaire ensemble, tu vas garder le vieux. Mais non, c'est comme...
Moi, je pense que si tu le sais... OK, puis là, c'est très anecdotique, tu me challenges si je dis de la merde. Ouais. Si tu le sais que tu as une partie de ton user base qui n'a pas un bon fit, justement, valeur perçue, valeur extraite, mettons, je pense que c'est legit de ne pas grand-périser la majorité du user base parce que ça va être comme une fonction d'élimination, tu sais. Puis ça, c'est anecdotique parce que Georges, il est là puis il pourra compter l'histoire ou whatever, mais comme on avait dit, OK, nous autres, à ce temps, on met un pricing minimum dans Snipcart. C'est pas juste 2% par vente, ça te coûte minimum 10$ par mois. Fait que si tes ventes descendent en bas de 500$, mettons, ça te coûte un flat 10. Puis... Moi, là, on l'avait challengé, puis je n'ai parlé de ce soir-là sur des blogs, sur des pods, whatever, mais le point étant qu'on a perdu la moitié de notre user base en genre 3 mois, peut-être même moins. On a eu du support de marde, comme je venais de dire. Oui. Puis moi, j'étais comme, ah, l'autre, c'est trop de la merde, on n'aurait jamais dû faire ça, je te l'avais dit, Georges, tu ne sais pas compter. Puis, avertir, c'est que c'est moi qui ne sais pas compter. Puis, genre, justement, 3-6 mois in, on l'a triplé notre revenu, tu comprends? Mm-hmm. Puis le support n'avait pas changé. Fait que, tu sais, il y a eu une fonction de. Écrémé, je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, là, mais...
Écrémé, c'est...
Fait que ça, je pense que c'est à réfléchir, surtout quand t'as pas bien nailé ton pricing, peut-être, encore.
C'est 100%. Je te dirais que c'est un calcul que les founders ont de la misère à faire, de dire, mettons que t'enlèves ton bottom 20% de client, puis que tu augmentes tes prix, généralement, les maths sont à ton avantage.
Ouais,
parce que, tu sais, si t'es trop cher, le monde t'achète pas. Si t'es le bon prix, le monde t'achète. Si t'es vraiment pas cher, le monde t'achète. Généralement, ce qui se passe quand tu augmentes, c'est que tu passes de vraiment pas cher à bon prix. Fait que là, tu captures du revenu de plus. Puis le monde que ça fit moins, et ainsi de suite, tu finis par les perdre. Mais les maths se balancent en ta faveur parce que les petits revenus que tu vas perdre versus les gros revenus que tu vas gagner, c'est en ta faveur. Puis pas juste ça, opérationnellement parlant, ça va te donner des meilleurs SaaS metrics. Mm. Ton LTV va être plus haut. Ton coût de support par unité va être plus bas. Ton gross margin monte et ainsi de suite. Wow. C'est juste bon pour l'acquisition puis le cash que tu vas vouloir réinvestir dans ta business.
On pourrait quasiment avoir une capsule ou un pod juste là-dessus. Fait que mettons une pin là-dedans. Hein. Excellente question. Merci beaucoup. Ça répond partiellement, I guess, mais
ouais,
on pourra
une recette
penser sur la discussion. Ouais, c'est bon. On peut en prendre une dernière peut-être, puis après ça, j'imagine que les gens ont mal aux fesses. Moi, j'ai mal aux fesses. Puis aussi, genre, pour ceux qui étaient là au podcast de KVO, j'avais dit que j'allais arrêter de fumer le 1er janvier.
C'est fait?
Je l'ai fait. Fait que là, il y a des menthes. Merci.
Merci.
Merci. Merci. Je sais, vous êtes dans mes DM, puis comment ça va, Frank? Mais grosso modo, j'ai des menthes à nicotine, fait que c'est pour ça que j'ai hâte que, quand on a fini la question. On a-tu une dernière ou on close, guys?
Salut, moi c'est Jeff. Tantôt, tu m'as choqué un peu quand tu as dit si tu closes à 80%, ça veut dire que ton prix n'est pas bon. Je suis curieux de t'entendre un peu plus là-dessus. Là. Je dis pas que je close à 80%, mais c'est quoi, toi, le barème, tu sais, de justement de taux de closing qui fait en sorte que tu peux te dire OK, tu charges le bon prix?
Moi, tout ça m'a choqué quand tu m'as dit ça en prep, by the way.
Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai pas de taux de closing parce que encore là, c'est très général, puis je pourrais pas te donner un chiffre qui est universel. Mais mon point, c'est que si ton taux de closing passe, puis encore là, tout dépendamment dans le business que t'es, là, si encore là, t'as pas ton, t'sais, ta marge brute après ça est grande ou t'as une capacité limitée, et ainsi de suite. Mais mon point, c'est que, mettons, ton closing rate passe de 80 à 50, mais que tu charges deux fois plus cher. Les maths que ça va donner, tu vas générer plus de revenus pour moins de clients à gérer. Fait que mon point, c'est que de passer d'un haut pourcentage puis de le descendre quand même à un pourcentage qui est haut, mais d'être beaucoup plus agressif sur le pricing, ça va te donner, à la fin de la journée, un revenu plus grand pour ta business. Fait que, puis surtout si c'est de quoi qui est, mettons, c'est du service professionnel ou, tu sais, une commodité que tu vends, les marges sont plus petites. Fait que si tu changes le prix, c'est que les marges vont doubler, vont tripler et ainsi de suite. Ça va faire un méchant levier sur ta business. Fait que j'ai pas de pourcentage à te donner, mais ce que moi je te dis, puis si tu veux, tu viendras me voir, on fera les calculs, la modélisation d'un taux de closing à 80 versus 50, mais avec le pricing aussi qui change. Fait que tu veux essayer de trouver le sweet spot entre le prix chargé, le taux de closing pour maximiser ton PNL après ça.
Ça, c'est quelque chose que le chiffre peut m'aider à...
Of course!
Nice! All right, merci tout le monde. Il reste des drinks, il reste de la bouffe. Vous êtes pas dehors. Merci beaucoup.